Au micro, je suis Rukayat Abdraman. Bonsoir à tous. Nous sommes lundi 19 juillet 2021. Merci d'écouter le programme du studio Kalangou. L'édition de 17h, c'est maintenant. Demain, le Niger célèbre la fête de Tabaski ou fête de mouton. Vous suivrez dans ce journal Oustaz Haladou Yahya, un prédicateur sur le type de l'animal à sacrifier. À Inates, dans la région de Tillabéri, une trentaine de combattants repentis ont déposé les armes, à suivre le maire de la localité dans un instant. En partie magazine de cette édition, dans la rubrique de chaque lundi consacrée à la justice, le magistrat Ayouba Hassan explique le fonctionnement de la Cour constitutionnelle. Dans un communiqué de presse publié hier à Niamey, le ministère nigérien de la Santé invite toute la population à plus de vigilance et de prudence suite à la survenue d'une troisième vague de la pandémie de la COVID-19 dans certains pays africains. Il rappelle par la même occasion la nécessité du respect strict des mesures barrières dans tous les lieux rassemblant plus d'une personne. Par ailleurs, le vaccin Covishield version indienne du laboratoire AstraZeneca est désormais reconnu par les autorités sanitaire française, rapporte une dépêche de Radio France Internationale datée du 17 juillet. À la veille de la fête de Tabaski, nombreux sont les musulmans qui n'ont pas encore acheté l'animal à sacrifier. Notre reporter a rencontré ce matin Oustaz Haladou Yahya, prédicateur, pour savoir quel type de bête il faut sacrifier. On l'écoute au micro de Hawa Ousmane.
L'animal à sacrifier doit être sain. Donc bien portant, il ne doit être amputé ni de ses oreilles ni de ses cornes. Il ne doit pas être manifestement malade ou visiblement boiteux. Il ne doit pas être maigre. Donc l'animal doit être sain. Un animal de l'espèce ovine, caprine, bovine ou caméline. Pour chaque espèce, c'est par ordre d'importance. On sacrifie le mâle qui n'est pas castré, à défaut on sacrifie le mâle castré et à défaut on sacrifie la femelle. Donc le meilleur sacrifice consiste à égorger un grand bélier cornu. Allah est pur, il n'aime que ce qui est pur et l'animal doit être acquis à partir du licite.
Parlant toujours de la fête de Tabaski, il est fortement recommandé d'abattre les animaux dans des endroits salubres. Pour le directeur régional de l'élevage de Maradi, certaines pratiques observées peuvent causer des maladies aux populations. Dr Soumaïla Adamou explique au micro de Mohamed Mama.
Il y a une pratique qui est développée qui consiste à étaler les animaux abattus à côté des caniveaux, des endroits en tout cas insalubres ou des dépotoirs. Tout en oubliant le produit fini va être consommé par la famille, par la communauté. Auquel cas, vous risquez de vous retrouver face à une situation d'intoxication alimentaire ou de toxi-infection alimentaire par des hospitalisations, des affections digestives, respiratoires, diarrhées. Le matériel aussi que les gens utilisent n'est pas soigné. Je prends un exemple. Vous prenez votre couteau, vous égorgez un animal, vous le déposez à même le sol. Sur le second, vous faites la même chose. Nous avons des maladies qui se transmettent de l'animal à l'homme à travers les spores. C'est le cas du charbon bactéridien. Il est fortement recommandé que les uns et les autres se fraient un espace plus hygiénique, plus aéré, et loin des dépotoirs ou des déchets qui peuvent contaminer les carcasses.
Une trentaine de combattants repentis de la localité d'Inates dans la région de Tillabéri se sont rendus aux autorités régionales. Celles-ci multiplient les efforts pour le retour de la paix dans la zone. Alhamadou Issalak, le maire d'Inates, explique au micro de Habib Garba.
Les repentis vont bien. Ils sont à Niamey dans de très bonnes conditions et ils nous aident chaque jour. Vraiment, on travaille ensemble, on continue à être une trentaine de repentis. Nous avons commencé un travail de récupération de repentis suite à une mise en place d'un comité de paix intitulé Comité de paix Nord-Tillabéri. Nous avons travaillé, mais vous savez, aujourd'hui, pour avoir la paix, il faut un grand sacrifice. Parce que il y a ceux qui veulent la paix et il y a ceux qui veulent aussi que cette insécurité perdure parce qu'ils profitent de là. Et ceux-là, ils sont riches, ils sont forts, donc nous avons toujours des obstacles. En tout cas, ceux qui profitent de cette insécurité ne veulent pas que ça prenne fin tout de suite. C'est vraiment un grand travail qu'il faut faire pour qu'on puisse ramener la paix dans cette zone-là.
Le gouvernement nigérien a inauguré le 15 juillet à Tilia, de la région de Tawa, son nouveau centre d'entraînement pour les forces spéciales, rapporte le quotidien nigérien d'information Le Sahel de ce jour. Présent à l'inauguration, le ministère nigérien de la Défense a déclaré, je cite, « Face à l'insécurité grandissante au Sahel, les forces armées nigériennes doivent s'adapter perpétuellement aux exigences sécuritaires afin de mieux garantir l'intégrité du territoire et la protection de la population. » Ce champ se trouve au sud-ouest du Niger, à la frontière malienne. La construction a coûté 2,6 milliards de francs CFA et financée en partie par l'ambassade d'Allemagne au Niger. Tous les 875 villages agricoles du département de Dakoro dans la région de Maradi ont tous procédé au premier semis selon le directeur départemental de l'agriculture. Cette présente campagne agricole se déroule très bien, a ajouté Hassan Labou Almagir, le responsable de l'agriculture, au micro d'Adamu Omar.
La situation actuelle de la campagne agricole dans le département de Dakoro, dans l'ensemble, c'est bon. Puisque maintenant, on a pu boucler nos semis à partir de la deuxième décade du mois de juillet. L'année passée aussi, c'était à la même période, donc la deuxième décade du mois de juillet, qu'on avait bouclé les semis. 100% des villages ont eu à effectuer leurs semis humides. Il y a eu un retard, effectivement, comparativement à l'année passée. Parce que l'année passée, l'installation de la campagne avait commencé à partir de la deuxième décade du mois de mai. Cette année, il a fallu, en tout cas vers la deuxième décade, donc courant deuxième décade du mois de juin, que les premiers semis ont commencé dans certaines communes, à l'occurrence au niveau de Kwarnaka, au niveau de Sabomashi, une partie de Angolbi. Jusqu'ici, en tout cas, on n'a pas de problème majeur, donc les gens n'ont pas à s'inquiéter. L'ensemble des 875 villages agricoles au niveau du département ont effectué leurs semis.
Le bureau du conseil d'administration de la Maison de la Presse, au cours de sa rencontre avec le ministre de la Communication vendredi, a évoqué et exprimé sa préoccupation face aux conditions de vie et de travail des journalistes nigériens. La question de l'accès à la publicité institutionnelle par les organes de presse privés a refait surface. Sur le sujet, le président du CSC, Dr Sani Kabir, explique le blocage des propos recueillis par Rafika Taher.
Dans la disposition du décret 2017, il était prévu de prendre une des libération pour clarifier l'accès à la publicité, parce qu'à ma connaissance, c'était l'une des conditions préalables des promoteurs bien avant 2012. Nous, on a pris deux délibérations. La première délibération, elle garantit l'accès des médias publics à la publicité de l'État et de ses démembrements. Il y a aussi un budget de la publicité. C'est ce budget-là qu'on a dit qu'il faut le repartir aux médias privés. Donc, il faut que l'État lui-même et ses démembrements acceptent de restituer cette cagnotte. Maintenant, quand les entreprises d'État s'engagent à le faire, obligatoirement, les médias et les entreprises privées vont suivre. D'autre part, on a pris une autre délibération pour permettre aux médias publics aussi d'accéder à la publicité de l'État et de ses démembrements.
Modifier les regards sur la jeunesse de Zander, notamment celle des palais et fadas du quartier Karakara de le deuxième arrondissement, considéré comme des redoutables gangs, c'est l'objectif de Aïcha Maki, native de Zander, qui a réalisé un film documentaire de 82 minutes qui a pour titre Zander. Vendredi, la population de la ville de Zander a eu sa projection du film au CSFN. Aïcha Maki, interrogée par Ali Keita à la fin de sa projection.
Zender, c'est ma ville natale. Pour moi, c'était un havre de paix. Et aller aux États-Unis et le voir un article qui présente Zender comme étant un tableau noir qui n'a aucune lueur d'espoir m'a réveillé de mon sommeil et j'ai voulu comprendre beaucoup mieux avec un regard interne d'une fille qui est née, qui a grandi à Zender, pour essayer de rendre compte de ces phénomènes du palais, tout en montrant beaucoup plus les jeunes qui sont résilients, qui ne sombrent pas dans la criminalité, mais en prenant des gens qui ont un passé, qui cherchent à être des gens dignes, des jeunes capables et valables d'un dialogue au sein d'une société. Et c'est cette résilience de cette jeunesse-là que j'ai voulu montrer dans mon film. Et je me suis focus beaucoup plus sur le quartier de Karakara. C'est un quartier qui a été créé dans les années 70 pour écraser les gens qui étaient atteints de la lèpre. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas forcément montrer la violence à travers le sang. J'ai tenu à montrer la violence autrement, en montrant des jeunes résilients. Donc, il faut comprendre des responsabilités et surtout avoir une solution pérenne, à mon sens. Et la solution pérenne, moi, je suis certaine que c'est d'occuper ces gens-là, c'est de leur trouver quoi faire.
Bonsoir grande sœur. Enfin, aujourd'hui je me suis décidée à venir te rendre visite au bureau.
Ah, Nafisa, tu sais, tu es toujours la bienvenue dans mon bureau.
Je sais, de toute façon, je suis ta petite sœur préférée, ou bien?
Toi-même tu sais, non? Est-ce que j'ai besoin de le dire?
Mais attends, grande sœur. Apparemment, vous ne blaguez pas ici avec les mesures de prévention contre la COVID-19.
Ah, mais oui, avec cette deuxième vague, nous devons donner le bel exemple au peuple.
Je comprends alors. Tout à l'heure, le vigile à la porte ne voulait pas nous laisser entrer dans le bâtiment sans bavette et sans avoir lavé nos mains. Heureusement qu'on avait nos bavettes dans nos sacs. On les a enfilées et on a lavé nos mains. Et me voilà dans ton bureau.
Tu vois, cette deuxième vague qui a encore repris, c'est à cause des comportements de négligence comme les tiens. Tu dois être responsable, je te le répète toujours. À chaque fois que tu dois te retrouver dans un endroit avec le monde, porte toujours ton masque. Il ne faudra pas laisser la négligence prendre le dessus. Soyons responsables, protégeons-nous et protégeons les autres.
Tu as tout à fait raison, grande sœur. Merci beaucoup pour ces conseils.
Ceci est un message du studio Kalangou en collaboration avec le ministère de la Santé publique du Niger.
Et puis la partie magazine de cette édition. La Cour constitutionnelle du Niger fait partie du pouvoir judiciaire. Elle est la plus haute juridiction en matière électorale et constitutionnelle. De par ses attributions sur les élections, elle est aussi compétente pour réguler les conflits d'attribution de compétences entre les institutions. Ayouba Hassan, magistrat, explique son fonctionnement et ses différents champs d'action. Il est au micro de Balkis Hamidou.
La Cour constitutionnelle, c'est la plus haute juridiction en matière électorale et constitutionnelle. C'est la Constitution qui a proclamé cela. La même Constitution dit que la Cour constitutionnelle fait partie donc des organes du pouvoir judiciaire. À ce niveau, elle doit donner ce pouvoir-là en matière électorale et en matière constitutionnelle. Mais il faut comprendre que la Cour constitutionnelle, quand même, a une histoire. De la Première République à la Quatrième République, n'assistait à une chambre constitutionnelle au niveau de la Cour suprême. Donc c'est la Constitution de la Cinquième République qui a créé une cour constitutionnelle.
Et quelle est sa composition?
Elle est composée de 7 membres, dont un proposé par le président de la République, un autre par le président de l'Assemblée nationale, 2 par les magistrats, 1 par les enseignants-chercheurs et 1 par les associations des droits de l'homme de la société civile.
Et dans quel domaine la cour constitutionnelle est compétente?
C'est à la cour constitutionnelle donc de veiller sur la régularité des élections référendaires, présidentielles et législatives. Aussi, la cour constitutionnelle reçoit le serment du président de la République. Il y a aussi sa compétence en matière constitutionnelle qui consiste à apprécier les lois. Elle va apprécier la constitutionnalité des lois à la Constitution, consiste à vérifier si les lois organiques adoptées par l'Assemblée nationale sont conformes aux dispositions constitutionnelles. Elle doit apprécier la conformité de ces traités et accords internationaux aux dispositions constitutionnelles. Sur notre ordonnancement juridique, notre Constitution confère la primauté de ces traités et accords internationaux par rapport aux lois internes. Autre chose aussi, c'est de réguler les conflits d'attribution de compétences entre les institutions. Parce qu'il peut arriver que des institutions puissent avoir des conflits dans leurs attributions. Donc, ils reviennent aussi à la Cour constitutionnelle d'apprécier la compétence, d'apprécier aussi le règlement intérieur de l'Assemblée nationale avant sa mise en application.
Qui est compétent pour saisir la Cour constitutionnelle?
Oui, d'abord, c'est le président de la République, le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale et aussi un dixième de députés en fonction des lois. Mais les lois organiques, ça, c'est d'office. Avant que le président ne signe le décret de promulgation, il faut qu'on les renvoie à la Cour constitutionnelle pour appréciation de leur conformité. Mais les lois ordinaires, ça, c'est laisser au choix du président de la République ou du Premier ministre de les envoyer à la Cour constitutionnelle, de voir leur conformité. Ça, c'est pas une obligation.
Et comment saisir la Cour constitutionnelle?
Bon, c'est juste une requête. Il n'y a pas de formalité particulière. En fonction de votre qualité, c'est le président ou le Premier ministre, le président de l'Assemblée.
La place et la contribution des femmes dans la vie politique à Zender, c'est le thème du forum de ce soir. Je vous laisse donc en compagnie de Mustapha Mamansani et c'est tout pour cette édition d'information. Merci de l'avoir suivi et au revoir.
Tous les jours, écoutez les programmes du studio Kalangou sur les ondes de nos radios partenaires.
Et sur WhatsApp au 80 06 88 54 à partir de 17h.
N'oubliez pas nos rendez-vous hebdomadaires.
Lundi, nous abordons une question de droit dans la partie magazine.
Mardi, suivez le magazine Bien-être à la fin des journaux et le forum Espace Femmes à 18h15.
Ne manquez pas le forum de la presse du vendredi pour le décryptage de l'actualité de la semaine.
Samedi et dimanche, place à l'actu des jeunes à partir de 17h, suivi de Tous à la Fada.
Et studio Kalangou au rythme du Niger.